Vous écoutez, on lit pour vous.
Québec ignore les avis d'experts sur l'alcool au volant. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. La Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, estime que l'implantation de mesures administratives pour sanctionner les conducteurs dont le taux d'alcool se situe entre 0,05 et 0,08 est une mesure porteuse, selon la conclusion d'un avis caviardé consulté par Le Devoir. Ce document, qui date de novembre 2023, s'ajoute à plusieurs recommandations faites en ce sens par le Bureau du coroner et l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, et dont la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, fait fi. La SAAQ a pris connaissance de la littérature scientifique et présente les gains obtenus à la suite de l'imposition de sanctions administratives pour les cas dont l'alcoolémie se situe entre 50 mg d'alcool par 100 ml de sang et 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. L'instauration de telles mesures peut effectivement constituer une mesure porteuse, s'ajoutant à d'autres mesures existantes. Cela étant dit, il s'agit d'une prérogative qui appartient au gouvernement, peut-on lire dans une lettre signée par Éric Ducharme, président-directeur général de la SAAQ, et adressée au coroner en chef Renaud Bernier. Ce passage, qui avait été caviardé dans un document transmis en vertu de la loi d'accès à l'information, a pu être consulté dans son intégralité par Le Devoir. Questionné à plusieurs reprises le 1er octobre 2024 à l'Assemblée nationale par le député libéral Moncef Deradji pour savoir si elle avait commandé cet avis produit par la SAAQ et pourquoi son contenu était caviardé, la ministre Guilbeault n'a pas répondu. Elle a également refusé d'accorder une entrevue au Devoir dans le cadre de cette enquête, mais a fait savoir par écrit qu'elle n'avait pas vu l'avis. Elle maintient sa position dans le dossier et confirme ainsi encore aujourd'hui sa décision de ne pas modifier la limite du 0,08. Des décès évitables. Partout au Canada, sauf au Québec et au Yukon, les conducteurs qui sont pris au volant avec un taux d'alcool dépassant 0,05 s'exposent à des sanctions administratives, non criminelles, comme la perte de leur permis pour un minimum de 3 jours et une contravention pouvant aller jusqu'à 4 000 $. Selon le guide de la route de la SAAQ, disponible en ligne, un conducteur dont l'alcoolémie se situe entre 0,05 et 0,08 a 4,5 fois plus de risque d'être impliqué dans un accident de la route. Au Québec, l'alcool au volant est la deuxième cause de décès de la route. Selon les plus récents chiffres de la SAAQ, la conduite avec les facultés affaiblies cause en moyenne 90 décès par année et 190 blessés graves. Les mesures actuelles ont permis de faire baisser le nombre de décès sur les routes, mais elles ne fonctionnent pas pour tout le monde, souligne en entrevue la coroner Geneviève Thériault. Il y a encore des décès évitables. On peut agir là-dessus. Les autres provinces et territoires du pays l'ont fait. Il a été prouvé que, lorsqu'on a des sanctions administratives à 0,05, ça permet de réduire le nombre de décès. Geneviève Thériault réaffirme ainsi la position des coronaires Julie A. Blondin et Yvon Garneau, qui ont également recommandé l'implantation de sanctions administratives aux conducteurs dès qu'est dépassé le seuil de 50 mg d'alcool par 100 ml de sang en mai et en octobre 2023. Pas de volonté au gouvernement. Depuis près de 20 ans, des pressions sont régulièrement faites sur le gouvernement québécois pour qu'il sanctionne la conduite avec alcoolémie dépassant 0,05. Mais les quelques projets de loi déposés en ce sens sont morts au feuilleton. En août 2023, la ministre Guilbeault a présenté son plan d'action en sécurité routière 2023-2028 en mettant en avant la « vision zéro », soit zéro décès et blessés graves sur les routes. Or, ce plan ne contenait aucune mention de l'alcool au volant. En février 2024, alors qu'elle présentait son projet de loi pour renforcer le code de la sécurité routière, la ministre Guilbeault a écarté les mesures visant à la conduite avec taux d'alcool de plus de 0,05. Le passage en commission parlementaire d'Antoine Bitard et d'Elisabeth Rivera, dont la fille, Jessica, est décédée à l'âge de 26 ans sur l'autoroute 20, alors qu'elle était passagère dans un véhicule dont le conducteur avait les facultés affaiblies par l'alcool, avait placé la CAQ dans l'embarras. Le couple, qui milite pour un resserrement du contrôle de l'alcool au volant, avait révélé avoir été incité à acheter deux billets au prix de 100 $ pour participer à un cocktail de financement afin de « parler deux minutes avec la ministre Guilbeault ». On ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur. Nous, on était là pour leur dire qu'ils ont la possibilité d'éviter un autre drame, d'éviter que d'autres familles passent par ce que nous avons traversé, dit M. Bitard en entrevue avec Le Devoir. Pendant notre intervention, on n'entendait pas une mouche voler. Ils écoutaient, ils comprenaient, et je vous garantis que si, à ce moment-là, on avait demandé à ces gens-là de voter, ils auraient tous voté en faveur d'une telle mesure, renchérit M. Bitard, qui est convaincu que c'est la ligne de parti qui bloque. Vous écoutez « Québec ignore les avis d'experts sur l'alcool au volant », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. 70%. Il s'agit du pourcentage de personnes interceptées pour conduite avec des facultés affaiblies qui le sont pour la première fois. Une pétition relative aux mesures à mettre en place pour contrer la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool avait également été déposée à l'Assemblée nationale. La ministre Guilbeault y a répondu en affirmant que le Québec est l'un des endroits les plus sévères au Canada en matière d'encadrement de l'alcool au volant, citant notamment l'installation de l'antidémarreur pour les récidivistes. Or, les données de la SAC soulignent que, parmi les conducteurs avec facultés affaiblies ayant causé des accidents de la route, seulement 18% étaient des récidivistes. Mettre l'accent sur les récidivistes, c'est une belle excuse, qui a souvent été entendue par Jean-Marie de Coninck, ancien président de la Table québécoise de la sécurité routière, qui rassemblait 50 acteurs provenant de ministères et de plusieurs organismes sous l'égide de la SAC. Cette table, dont les travaux ont été suspendus en 2017, avait notamment recommandé d'adopter les mesures administratives visant le taux d'alcool de 0,05. L'expert rappelait que plus de 70% des gens qui sont interceptés pour conduite avec les facultés affaiblies le sont pour la première fois. Le vrai problème, à ses yeux, c'est que s'il n'est pas permis de conduire en étant pacté, ça l'est de le faire en étant chaud. Une comparaison faite par le chroniqueur Patrick Lagacé qui illustre la problématique québécoise selon lui. On est feeling, on est étourdi, de bonne humeur et on ne devrait pas conduire. Mais la loi le permet au Québec, alors qu'elle ne le permet pas dans les autres provinces. Des députés ont voté contre leur gré. En mars 2024, le député libéral Moncef Déragie a déposé un projet de loi sur l'alcool au volant et l'instauration de sanctions administratives comme une suspension temporaire du permis de conduire et une contravention élevée dès l'atteinte d'un taux d'alcool de 0,05 sur les routes de la province. Le projet de loi a été appuyé par le Parti québécois et Québec solidaire, mais a été rejeté par les élus de la CAQ lors du vote. Selon le plus récent sondage mené cette année par l'Association pour la santé publique du Québec, ASPQ, il s'agit d'une mesure qui divise les Québécois, mais qui est loin d'être impopulaire puisque 55% d'entre eux se positionnent pour son adoption. Pourquoi la CAQ refuse-t-elle de l'adopter? Plusieurs explications ont été avancées par trois députés caquistes qui auraient souhaité appuyer le projet de loi. Ils se sont confiés au Devoir sous le couvert de la confidentialité par peur d'être exclus du caucus de leur parti. je suis pour l'ajout d'une mesure administrative à 0,05 parce que ça peut sauver des vies, tout simplement, explique l'un d'entre eux. Je ne pense pas que j'étais la seule personne, mais le dilemme, c'est qu'on n'a pas voulu en faire un enjeu politique pour les prochaines élections. Tout le monde était obligé de voter de la même façon, évidemment, confie l'un d'entre eux. Il y a des décisions qui se prennent en haut lieu et les mesures qui touchent l'alcool au volant en font partie, confirme un autre député caquiste. Un troisième se dit lui aussi pour des mesures restrictives concernant la limite d'alcool dans le sang au volant et estime que cela aurait mérité de faire l'objet d'un vrai débat au sein du caucus. Je suis plus pour le baisser, un peu comme ça se fait dans l'Ouest. Ça prendrait effectivement une commission parlementaire, un débat là-dessus. Un éternel débat. Le débat sur les sanctions à partir d'une alcoolémie de 0,05 ne date pas d'hier. En 2007, la ministre des Transports, Julie Boulay, avait voulu en faire une priorité lorsqu'elle avait déposé son projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière. Sa proposition avait suscité un tollé au sein de la classe politique et de l'industrie des restaurateurs et tenanciers de bars, amenant les libéraux à y renoncer. J'étais fier de cette mesure parce qu'elle constituait un changement radical. C'était une mesure qui allait envoyer un message fort et, surtout, on suivait les recommandations de la table québécoise de la sécurité routière, se rappelle Mme Boulay. Ça me désole de voir que, 20 ans plus tard, on est au même endroit. L'INSPQ avait produit à l'époque un avis scientifique préconisant l'adoption de mesures visant le taux d'alcool à partir de 0,05, mentionnant que l'alcool au volant constitue une question de santé publique. Une mise à jour de cet avis qui recommandait une fois de plus ces mesures a été déposée à l'Assemblée nationale dans le cadre des consultations du projet de loi sur la sécurité routière en 2016. À ce jour, l'INSPQ recommande toujours sur son site Internet la mise en place d'une mesure administrative à 0,05. Le professeur Tim Stockwell, qui a dirigé le Canadian Institute for Substance Use Research de l'Université de Victoria de 2004 à 2020, a mené avec son équipe une étude sur le cas de la Colombie-Britannique publiée en 2013. 3 ans plus tôt, la province a introduit une loi faisant en sorte qu'un conducteur dépassant le taux d'alcool de 0,05 lors d'un contrôle routier verrait sa voiture saisie pendant 3 jours et recevrait une amende pouvant aller jusqu'à 4 000 $. En analysant les données sur les accidents de la route, les blessures et les décès survenus avant et après l'entrée en vigueur de la mesure, l'équipe de Tim Stockwell a estimé que celle-ci avait mené à environ 40% de réduction du nombre de décès, une diminution de 20% des blessures causées par des accidents et une diminution de 19,5% des dommages matériels causés par les accidents. Au Québec, la politique zéro alcool s'applique aux apprentis conducteurs, aux conducteurs de moins de 22 ans, ainsi que pour le transport de personnes, taxis, autobus. Il existe une mesure administrative à 0,05 pour le transport de biens et de matières dangereuses. Dans son projet de loi sur la sécurité routière déposé en février dernier, la ministre des Transports a proposé d'imposer l'exigence du zéro alcool pour tous les apprentis motocyclistes, y compris ceux détenant déjà un permis de conduire automobile. C'était « Québec ignore les avis d'experts sur l'alcool au volant », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.
Cataracte, vous craignez de vous faire opérer? Voici ce qu'il faut savoir. Un texte d'Alan Stagelman et Elisabeth M. Hoffmeister, paru dans le magazine Bel Âge. La chirurgie de la cataracte est l'une des interventions les plus couramment pratiquées dans le monde. avec, dans l'immense majorité des cas, de très bons résultats et peu de complications. En tant qu'ophtalmologiste, ayant réalisé des milliers de ces interventions, nous savons que de nombreux patients se font des idées fausses en ce qui concerne cette intervention, ainsi que les causes de la cataracte. Certains patients imaginent par exemple qu'il s'agit d'une excroissance à la surface de l'œil. Faisons le point sur cette pathologie très répandue, mais dont la prise en charge, dans la majorité des cas, ne présente pas de difficultés particulières. Qu'est-ce que la cataracte? Pour comprendre ce qu'est en réalité cette affection, il faut imaginer une vitre à la surface de laquelle du givre se serait formé. La lumière peut toujours être transmise, mais les détails sont perdus. On peut aussi utiliser une autre image, celle de la surface transparente d'une mer tropicale qui se retrouverait troublée par les turbulences d'une tempête. De la même façon, la cataracte survient lorsque le cristallin, la lentille convergente naturelle de l'œil, autrefois transparent, s'opacifie. Cette affection n'est pas rare, puisqu'on estime qu'au-delà de 80 ans, la cataracte touche plus de la moitié des Américains. Chaque année aux États-Unis, près de 4 millions de chirurgies de la cataracte sont effectuées. Après l'intervention, plus de 90% des patients retrouvent une vision de 10 sur 10 avec des lunettes. Ce n'est toutefois pas le cas des personnes souffrant d'autres affections oculaires, notamment celles atteintes de glaucome, une maladie à évolution progressive, caractérisée par une pression intraoculaire élevée, de rétinopathie diabétique, laquelle peut aboutir à l'endommagement des tissus rétiniens, ou de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Enfin, le taux d'infection après une intervention chirurgicale par endophtalmie est inférieur à 0,1%. En quoi consiste la chirurgie de la cataracte? Durant la chirurgie de la cataracte, le cristallin déficient est retiré, puis remplacé par un cristallin synthétique pour restaurer la vision. La plupart des patients rapportent que l'intervention est indolore. Cette chirurgie est généralement réalisée en ambulatoire. Elle se pratique habituellement sous anesthésie locale, en employant une sédation similaire à celle utilisée pour les interventions dentaires. Nous aimons dire à nos patients qu'ils vont recevoir l'équivalent de 3 margaritas dans leur intraveineuse. Certains candidats à la chirurgie doivent cependant être opérés sous anesthésie générale. C'est par exemple le cas des patients souffrant de claustrophobie ou de ceux atteints de troubles du mouvement, tels que ceux provoqués par la maladie de Parkinson. Avant la chirurgie, les patients reçoivent des gouttes qui vont dilater leur pupille afin de la rendre aussi large que possible. Un anesthésiant est appliqué sur la surface de l'œil ainsi qu'à l'intérieur. Le chirurgien fait ensuite une incision entre la partie transparente et la partie blanche de l'œil, généralement avec la pointe d'un petit scalpel pointu. Cela lui permet d'accéder à la capsule du cristallin, une fine membrane dont l'épaisseur est similaire à celle de la paroi d'un sac plastique. La capsule du cristallin est suspendue par de petites fibres appelées zonules, disposées à la manière des ressorts qui suspendent un trampoline à son cadre. Pour accéder au cristallin, le chirurgien procède à une capsulotomie. Il incise la capsule. Pour pouvoir le retirer par le petit trou ainsi pratiqué, le cristallin est ensuite fracturé par ultrasons. Ces derniers émulsifient le cristallin et les morceaux obtenus sont retirés par aspiration. Ainsi décrit, cela peut sembler effrayant, mais le procédé est indolore. Soulignons que la chirurgie de la cataracte, assistée par laser, permet d'obtenir des résultats similaires à ceux de la chirurgie traditionnelle. Des complications rares. Les complications post-opératoires graves, telles qu'infection, saignement dans l'œil ou décollement rétinien, sont rares. Elles surviennent dans environ un cas sur 1000. Et même lorsqu'elles se produisent, une prise en charge appropriée permet de préserver la vision dans un grand nombre de cas. Il est cependant une sorte de complication qui mérite que l'on s'y attarde. Il s'agit des complications capsulaires. Celles-ci se produisent lorsque, au cours de la chirurgie, survient une déchirure de la face postérieure de la capsule. Dans ce cas, la substance transparente et gélatineuse qui remplit la cavité oculaire en arrière du cristallin, le corps vitré, peut se retrouver dans la partie antérieure de l'œil. Selon certaines études, de telles complications peuvent survenir au maximum dans 2% des cas. Si cela se produit, le gel en question doit être retiré au moment de la chirurgie. On parle de vitrectomie. En procédant de cette façon, la probabilité de survenue de complications post-opératoires diminue. En revanche, les patients qui subissent une vitrectomie ont un risque accru de certaines complications particulières, notamment de gonflement post-opératoire, œdème. Après la chirurgie, les patients rentrent généralement chez eux immédiatement après l'intervention. La plupart des hôpitaux et des cliniques exigent que quelqu'un les raccompagne, mais cette précaution est davantage prise en raison des conséquences potentielles de l'anesthésie que de la chirurgie elle-même. Le traitement post-opératoire débute le jour même. Il consiste à appliquer des gouttes sans toucher l'œil et à porter un couvre-œil. Cette coque de protection n'est pas nécessaire en journée, mais doit être installée au moment du coucher. Les patients doivent garder l'œil propre et éviter l'exposition à la poussière, aux débris et à l'eau. Ils doivent essayer de ne pas se pencher et éviter tout effort ou port de charge lourde, au moins pendant la première semaine suivant la chirurgie. Si cette consigne n'est pas respectée, il existe un risque d'hémorragie choroïdienne, autrement dit de saignement au niveau de la paroi de l'œil, ce qui peut être dévastateur pour la vision. Ce problème est dû au fait qu'effort et port de charge lourde peuvent s'accompagner d'une augmentation soudaine de la pression artérielle au niveau du visage et de l'œil. Les activités qui n'augmentent que modérément la fréquence cardiaque, telles que la marche, sont autorisées. Les examens post-opératoires de routine sont généralement effectués le jour suivant la chirurgie, puis environ une semaine après, et enfin un mois après l'intervention. Quel nouveau cristallin choisir? Pour que les résultats soient optimaux, le cristallin en plastique utilisé pour remplacer la cataracte, aussi appelé lentille intraoculaire, doit être dimensionné précisément. Les premières lentilles intraoculaires mises au point étaient monofocales. Elles offraient une seule distance de mise au point et la personne opérée devait choisir si elle préférait voir correctement de loin ou de près. La plupart du temps, la vision de loin était privilégiée, les opérés utilisant des lunettes pour les tâches de près, comme la lecture. Cette approche demeure toujours d'actualité, puisqu'elle concerne aujourd'hui encore environ 90% des patients. Des avancées récentes ont toutefois conduit au développement de lentilles intraoculaires multifocales qui offrent la possibilité de voir de près comme de loin et donc de se passer de lunettes. Certaines de ces lentilles sont même trifocales. Elles permettent de voir de près, de loin, ainsi qu'aux distances intermédiaires, ce qui est devenu très important en raison de la démocratisation de l'utilisation des écrans. La plupart des patients chez qui ces lentilles multifocales ont été implantées en sont satisfaits. Cependant, un petit pourcentage d'entre eux rapportent être gênés par diverses perturbations visuelles, notamment des éblouissements nocturnes et des halos qui se forment autour des sources de lumière dans la pénombre. Certains patients gênés par ces perturbations demandent parfois le retrait de leur lentille multifocale pour la remplacer par une lentille intraoculaire standard. Lorsque la gêne s'avère trop importante, cette démarche permet de soulager la plupart des personnes concernées. Des recherches sont actuellement en cours afin de déterminer pour quels patients les lentilles multifocales sont les plus appropriées et ceux à qui elles ne conviennent pas. La plupart des cliniciens déconseillent de telles lentilles à ceux qui ont tendance à attacher de l'importance aux détails, car ces personnes risquent de se focaliser sur les défauts de telles lentilles plutôt que sur les avantages qu'elles procurent. Comme pour la plupart des technologies, les lentilles intraoculaires s'améliorent au fil des années. Celles qui sont actuellement disponibles sont bien meilleures que les précédentes et celles qui leur succéderont amélioreront probablement encore la vision des patients qui les recevront, tout en limitant encore les effets secondaires, tels que les halos susmentionnés. Il faut toutefois souligner que les nouvelles lentilles ne sont souvent pas remboursées intégralement, ce qui entraîne souvent des coûts substantiels à la charge des patients. Décider quel est le type de lentille le plus approprié peut s'avérer compliqué. Heureusement, sauf dans certaines circonstances, comme lorsqu'une cataracte se développe après un traumatisme de l'œil, au moment où le diagnostic est posé, il n'y a généralement pas d'urgence à se faire opérer. Le choix peut donc être fait en toute sérénité. C'était Cataracte, vous craignez de vous faire opérer? Voici ce qu'il faut savoir. Un texte d'Alan Stiegelman et Elisabeth M. Hoffmeister, paru dans le magazine Bel Âge.